à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, Donald Trump a menacé de terribles mesures économiques tout pays qui aiderait l'Iran dans son effort de guerre. Le gouvernement espagnol a annoncé la création de centres d'hébergement pour 1800 migrants à Ceuta pour soulager la crise humanitaire. Et Météo France a placé 3 départements du sud-est du pays en vigilance orange pour des orages. La Corse passera au même niveau d'alerte demain matin. Dans l'actualité au Moyen-Orient d'abord, Donald Trump a menacé de terribles mesures économiques tout pays qui aiderait l'Iran dans son effort de guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a critiqué les déclarations du président américain en parlant de politique vouée à l'échec. Le ministre israélien de la Défense accuse le président turc Recep Tayyip Erdogan d'entraîner la Turquie dans de dangereuses aventures en Syrie. Israël a frappé une base aérienne syrienne et estime que le déploiement de troupes turques sur place constituait une menace, une accusation fermement démentie par Ankara. Les précisions avec vous, Inès Gilles.
Et oui, mardi, des avions de combat israéliens ont bombardé un aéroport militaire hors service dans le nord-ouest de la Syrie, juste après la visite d'une délégation officielle turque. Benjamin Netanyahou a affirmé que la Turquie cherchait à y établir une présence militaire malgré la mise en garde d'Israël. L'accusation, vous l'avez dit Nawal, a été démentie par la Turquie qui affirme néanmoins qu'elle continuera résolument de protéger la souveraineté de la Syrie. Après cette frappe israélienne, les tensions continuent de monter. Aujourd'hui, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, est monté au créneau. Il a affirmé sur X que Israël ne permettra à aucune entité de menacer sa sécurité, je cite. Et dans le cadre de la campagne pour sa réélection, Benjamin Netanyahou a fait afficher des photos de plusieurs dirigeants, dont le président turc Recep Tayyip Erdogan, avec la mention « Ils veulent voir perdre Netanyahou ». Les relations entre la Turquie et Israël sont historiquement très complexes. La Turquie a été le premier pays majoritairement musulman à reconnaître l'État d'Israël et les deux pays entretiennent des relations commerciales solides, même si Ankara a dit pendant la guerre à Gaza vouloir y mettre fin. Mais les récentes tensions montent de manière insidieuse. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fortement critiqué la guerre menée par Israël à Gaza après la du 7 octobre. Les relations se sont encore détériorées après les interceptions brutales par Israël d'une flottille venue de Turquie qui cherchait à acheminer de l'aide à Gaza. Et puis le président Erdogan a autorisé les dirigeants du Hamas à vivre en Turquie. Les deux pays sont en rivalité depuis plusieurs années, notamment pour le contrôle de la Méditerranée orientale qui regorge de réserves de gaz. Et depuis la chute de Bachar al-Assad, la Syrie est devenue un nouveau terrain de conflit par procuration. Les joutes verbales entre les dirigeants des deux pays sont elles aussi de plus en plus fréquentes. C'est des tensions inquiétantes. Les deux pays sont des puissances militaires régionales importantes et la Turquie, membre de l'OTAN, jouit de bonnes relations avec les États-Unis, dont l'ambassadeur à Ankara a condamné les frappes israéliennes. Certains chercheurs spécialistes de la région s'inquiètent. Les deux puissances régionales pourraient à terme entraîner la région dans leur rivalité.
Merci beaucoup Inès Gilles pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité internationale, la Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles balistiques selon l'armée sud-coréenne peu après que Donald Trump ait annoncé qu'il rencontrerait le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un cette année. En Ukraine, une nouvelle nuit de bombardements russes a fait au moins 13 morts à Kiev et dans sa région. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que Moscou investit dans des missiles balistiques. En Belgique, les pompiers qui luttent depuis vendredi contre un incendie dans l'est du pays ont à nouveau dû intervenir à plusieurs reprises cette nuit pour maîtriser de nombreuses reprises de feu, selon les autorités locales. Le gouvernement espagnol a annoncé aujourd'hui la création de centres d'hébergement pour 1800 migrants à Ceuta pour soulager la crise humanitaire depuis l'arrivée de migrants provenant du Maroc le mois dernier. On fait le point avec vous sur la situation, Inagile.
Et oui, Nawal, 72 000 migrants avaient franchi la frontière les 30 et 31 juillet derniers. Un afflux inédit et meurtrier vers ce territoire espagnol en Afrique du Nord. Depuis, 70 000 d'entre eux sont retournés au Maroc, selon les chiffres du gouvernement espagnol. Mais ceux qui sont restés, dont des enfants non accompagnés qui ne peuvent être expulsés, peinent à accéder à la nourriture, à l'eau, à un abri et à des installations sanitaires. Les capacités d'accueil de l'enclave sont débordées. De nombreux migrants ont passé les 3 dernières semaines à dormir dans les rues ou sur la plage. Des ONG alertent sur la situation des femmes et des filles particulièrement vulnérables. De leur côté, les habitants de Ceuta se plaignent de problèmes d'insécurité et d'hygiène liés à ces personnes sans abri qui errent dans les rues. Des habitants qui accusent le gouvernement de négliger leur territoire. Alors, le ministère espagnol des migrations a indiqué aujourd'hui que 2 nouveaux centres qui viennent d'ouvrir constituent des structures d'accueil temporaire qui seraient progressivement agrandies grâce à des travaux d'aménagement. Le but principal du transfert volontaire vers ces centres est d'offrir une solution d'hébergement et un lieu d'accueil alternatif pour que les migrants n'aient plus à passer la nuit dans les rues ou sur la plage, selon le ministère. L'avenir de ces migrants a déclenché une bataille politique entre, d'un côté, le gouvernement central de gauche et, de l'autre, les régions dirigées par le principal parti conservateur, le Parti populaire, parfois avec le soutien du parti d'extrême droite Vox, qui refuse d'accueillir des mineurs isolés selon les dispositions légales espagnoles. En Espagne, les expulsions massives de mineurs sont illégales, a déclaré le secrétaire d'État à l'enfance, Rubén Pérez Correa. Le gouvernement entend notamment transférer 500 jeunes filles vers l'Espagne continentale.
Merci Inès Gilles pour toutes ces précisions. Dans l'actualité en France, la France insoumise compte défendre à l'Assemblée nationale l'interdiction de certains pesticides réintroduits sous condition par la loi agricole qui a été promulguée en France le 18 août dernier. Une annonce ce matin de la présidente du groupe Mathilde Panot chez nos confrères de France Inter.
Nous vous annonçons ce matin que nous utiliserons notre niche parlementaire pour abroger cette loi poison qui a été faite, c'est-à-dire le fait de réintroduire 2 néonicotinoïdes qui attaquent le cerveau des enfants. Je rappelle que l'année dernière, il y avait 2,2 millions de personnes qui avaient signé une pétition contre la réintroduction des néonicotinoïdes. Je rappelle que l'Ordre des médecins et plusieurs sociétés savantes ont dit qu'il ne fallait pas reproduire le scandale, notamment du chlordécone et de l'amiante. Le danger grave sur l'agriculture, ce ne sont pas les pesticides. Les dangers graves pour l'agriculture, ce sont les accords de libre-échange que les macronistes ne cessent de signer, et c'est le fait qu'on ne protège pas les agriculteurs d'une concurrence déloyale. Je vous donne un exemple. Dans la loi d'urgence agricole, nous avions fait voter un amendement qui permettait d'interdire toute importation de produits en France traités avec des pesticides interdits dans notre pays, ce qui semble être de bon sens. Eh bien, le gouvernement l'a enlevé. Et sur la question des néonicotinoïdes, des pesticides, l'Assemblée nationale a été empêchée de voter. Donc c'est un scandale sanitaire, c'est un scandale démocratique. Et le 29 octobre, à l'Assemblée nationale, nous le ferons voter.
Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Nous en avons parlé ces derniers jours, près de 700 000 contribuables ont été touchés par les piratages du fisc cet été. Ce mardi, le fisc a annoncé une troisième fuite sur les données liées aux successions. Une fuite rapidement coupée. Mais déjà, ces cyberattaques posent la question de la sécurité informatique en France. À notre micro pour en parler, Akram Azam, chef du pôle cybersécurité chez CIA Partners.
Un pays plus attractif pour des cybercriminels et des hackers que les autres pays, parce que la France, c'est une puissance économique, c'est une puissance politique, géopolitique, une puissance nucléaire. Et aussi, de par la construction de son administration de manière historique, il dispose de bases de données ultra centralisées, enrichies, maintenues dans le temps.
Les citoyens concernés doivent-ils s'attendre à des conséquences concrètes dans les prochains mois ?
Donc là, bien sûr, en fait, la procédure judiciaire qui est ouverte, c'est principalement pour identifier les rôles et responsabilités, de reconstituer les faits, d'essayer d'identifier ce groupe de cybercriminels. C'est quelque chose qui peut aboutir, mais que ça prendra beaucoup de temps. Et généralement, c'est très difficile derrière l'anonymat numérique d'identifier qui que ce soit. pour les citoyens, les utilisateurs dont les données ont fuité, malheureusement, ça ne leur ramène rien parce qu'il y a aujourd'hui un vide juridique où l'État, même si ça a été responsable par exemple d'une fuite de données et que ces données-là ont été utilisées à l'insu d'une personne pour commettre une fraude, une usurpation d'identité, il n'y a rien qui protège cette personne-là. Elle va devoir faire aussi ses démarches administratives, légales, engager des frais de justice. Il n'y a pas de protection pour ces personnes-là dont l'État ne s'est pas montré à la hauteur de la protection de leurs données.
Akram Azam, chef du pôle cybersécurité dans le cabinet de conseil SIA Partners. Il sera l'invité d'Inagile dans l'émission Grand Angle après le flash de 18h. On reste en France. Deux hameaux ont été évacués hier soir en Lozère où un incendie a parcouru 250 hectares faisant un blessé parmi les pompiers. Selon les services de secours et la préfecture, le feu est désormais fixé. Alors qu'une troisième vague de chaleur sévit dans le pays depuis fin juillet, l'une des plus longues jamais enregistrées en France, le bilan provisoire de la surmortalité lors des périodes de fortes températures s'élève déjà à 7300 morts cette année, selon les autorités sanitaires. Et enfin, Météo France a placé trois départements du sud-est du pays en vigilance orange pour des orages, tandis que la Corse se passera au même niveau d'alerte dès demain matin. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.